Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Nous sommes le 31 juillet 1944, quelques jours avant la libération de Paris. Peu avant 9h du matin, un avion décolle du petit aéroport de Borgo Poretta, au sud de Bastia. À son bord, le commandant Antoine de Saint-Exupéry. Lui qui ne pensait plus voler, atteint par la limite d'âge fixée à 30 ans, bénéficia finalement de l'indulgence de l'armée américaine. Eisenhower lui-même signa sa réintégration et lui confia, à 44 ans, le fameux Lightning P-38, un avion nouvellement sorti des usines outre-Atlantique. Parti pour une mission d'observation au-dessus de la Savoie et de la vallée du Rhône, son avion possédait une autonomie de 6 heures. À 14 heures, le pilote n'était toujours pas rentré. Une demi-heure plus tard, le carburant était épuisé. Saint-Ex ne reviendra pas, il ne reviendra jamais. Laconique, l'officier de service consignera l'événement dans le journal. « Le pilote n'est pas rentré », écrivait-il. « Il est présumé disparu, aucune image. » C'était là le début du mystère Saint-Exupéry. Un jour dans l'histoire vous propose de découvrir les derniers moments de l'écrivain pilote le plus connu du XXe siècle. Mais au-delà, cette émission va aussi s'employer à évoquer l'histoire d'une aventure humaine mêlant à la fois la chance, le hasard, mais aussi la volonté, la science et les techniques. Au carrefour donc de l'histoire, de la littérature et de l'archéologie et bien sûr de la science, je vous propose l'enquête sur une des plus fameuses disparitions, celle d'Antoine de Saint-Exupéry. Jacques Pradel, bonjour.
Bonjour Christophe.
Alors vous êtes bien connu du grand public, vous êtes animateur radio, ancien présentateur de la matinale d'Europe 1. Vous présentez aujourd'hui sur la même antenne Café Crime et vous avez publié avec Luc Van Rel l'ouvrage Saint-Exupéry, l'ultime secret, enquête sur une disparition, un ouvrage préfacé par Alain Decaux. C'est un ouvrage paru aux éditions du Rocher. Alors avant d'entrer, Jacques, dans le vif du sujet, peut-être une question, ma foi, toute personnelle. Quel a été, dans votre vie, votre premier contact avec Saint-Exupéry ?
Oh, moi, mon premier contact avec Saint-Exupéry, ça a été Courrier Sud et très vite Vol de Nuit, parce que j'ai toujours été à la fois passionné d'aventure et passionné aussi d'aviation. D'ailleurs, plus tard, beaucoup plus tard, je suis devenu pilote privé. En fait, c'est surtout Vol de Nuit, moi, qui a été mon premier contact. J'ai lu Le Petit Prince beaucoup plus tard, en fait. Et pour vous dire la vérité, c'est pas un livre devant lequel je me suis mis à genoux. Je le trouve exceptionnel. Je sais tout ce qu'on dit sur ce livre, et c'est vrai que j'ai peut-être eu le défaut au départ de le prendre plus pour une histoire pour enfants qu'une histoire pour adultes. Je sais maintenant que j'ai grandi que c'était un conte pour adultes. Moi, c'est le personnage, effectivement, de Saint-Ex qui m'a toujours fasciné, mais plus l'aviateur et l'aventurier que l'écrivain.
Alors, vous êtes aussi un passionné d'histoire ?
Absolument, oui, oui, bien sûr. Je suis un grand lecteur à la fois de livres historiques et je suis aussi un amateur de mystères que je partage d'ailleurs comme passion avec Alain Decaux. C'est pour ça que vous rappeliez il y a un instant qu'Alain Decaux nous a offert cette préface. Et j'ai eu la chance dans mes années France Inter de faire grand nombre d'émissions avec Alain Decaux. Et il avait une formule extraordinaire à l'époque qui me faisait beaucoup rire quand il racontait les grands mystères de l'homme au masque de fer, tous les mystères de l'histoire. Il terminait toujours en disant « L'énigme est résolue, mais le mystère demeure. » Et quand je suis allé le voir avec le manuscrit de ce livre, je lui ai dit « Alain, c'est l'illustration de votre formule. » Parce que l'énigme de la disparition de Saint-Exupéry est effectivement résolue. Par contre, le mystère de cet homme demeure et je crois que notre enquête n'abîme pas, si j'ose dire, la légende de Saint-Exupéry.
Quelle est l'origine de cet ouvrage avant de passer à la vie de Saint-Exupéry ?
C'est tout simple, là, il n'y a pas de mystère. C'est simplement, je faisais la matinale d'Europe 1. J'avais suivi à la fois de l'extérieur, puis un petit peu de l'intérieur quand même, parce que je suis plongeur aussi, c'est une autre de mes passions. Je suis plongeur autonome.
Alors nous avons un autre point commun.
Voilà, et donc je connaissais Luc Van Rel de réputation, j'allais souvent plonger à Marseille. Donc j'avais entendu parler de cette histoire de gourmette trouvée par un pêcheur. Je savais que les morceaux de l'avion avait été exhumé en 2003 Et en avril 2004, une dépêche de l'AFP nous dit que les morceaux qui étaient sortis de l'eau depuis un an ont continué à être analysés, qu'on a trouvé un numéro, le numéro commercial de série de l'avion, ce qui était très important, et que c'était cette fois-ci la preuve à 100% que ces débris d'avion sortis de l'eau quasiment en face de Marseille étaient bien les débris de l'avion de Saint-Ex. Et donc, du coup, je me suis dit, mais il faut tout de suite que je réunisse tous les acteurs de cette histoire, et je l'ai fait venir au micro d'Europe 1. Donc, j'appelle Luc Van Rel, dont j'avais les coordonnées, je fais venir Jean-Claude Bianco, le pêcheur qui avait trouvé la gourmette, j'appelle Henri-Germain Delauze, donc le patron de la Comex, qui, d'une certaine manière, a participé à la fin de cette aventure en mettant à disposition ses bateaux, un autre acteur qui s'appelle Philippe Castellano, qui est le président d'une petite association de fanas des avions de la guerre, qui s'appelle Aéro-Relique. Il passe son temps, en fait, à analyser les débris d'avions qu'on trouve dans la Méditerranée, il y en a beaucoup, pour essayer de reconstituer leur histoire et de raconter ce qui s'est passé. Donc je fais venir tous ces gens-là, on fait l'émission, on raconte aux auditeurs toute la saga de cette découverte due à un vrai hasard. Hein, la gourmette, c'est vraiment un hasard. Et puis, on va boire un café avec Luc Van Rel à la fin de l'émission. Et là, il me dit, mais vous savez, quand on a sorti les morceaux de l'eau en 2003, en fait, j'ai fait une autre découverte, dont il n'avait pas parlé d'ailleurs, y compris dans l'émission. Je dis, ah bon, c'est quoi la découverte? Et il me dit, sous les débris de l'avion de Saint-Ex, il y avait d'autres débris d'avion, mais d'un avion allemand. Alors je lui dis, écoutez, c'est formidable, vous avez résolu le mystère. Il y a eu un combat aérien, il me dit, oui, c'est des morceaux de Messerschmitt, etc. Je lui dis, ça doit être la clé de l'histoire. Et c'est là où Luc, que j'ai commencé à apprendre à connaître ce jour-là, me dit, mais c'est pas sûr. C'est pas prouvé. Il faudrait recommencer une investigation. Et en gros, il m'a dit, moi, j'en ai un peu marre, quoi. Ça fait presque 10 ans que ça dure. Je suis surtout plongeur professionnel. Vous êtes journaliste. Vous avez fait des livres d'investigation. Est-ce que vous voulez pas vous joindre à nous? Et c'est là où j'ai dit banco. Et je me suis joint à ce moment-là à l'histoire. Donc, en fait, en 2004. Et j'ai surtout participé à la dernière partie de l'enquête, celle qui devait nous amener après en Allemagne et découvrir l'identité de celui qui avait abattu cet avion.
Alors, avant d'en venir justement à la découverte de ce personnage qui constitue la fin de votre ouvrage, le dernier chapitre, revenons un peu, si vous voulez bien, sur Saint-Ex et la guerre. Nous sommes en 1939 et Saint-Exupéry est déjà trop âgé finalement pour s'engager sur le plan militaire.
Alors non, il n'est pas trop âgé pour s'engager sur le plan militaire. C'est quand même, d'abord, c'est pas n'importe qui. C'est quand même quelqu'un qui a fait toute la saga de l'aéropostale. Certes, il n'a pas été pilote à Air France quand Air France s'est constituée, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ses capacités de pilote. En fait, non, il pouvait très bien s'engager dans la chasse française, mais donc la guerre se déclare le 2 septembre 1939. Il passe l'examen médical qu'impose l'armée à tout pilote, et c'est là où les médecins de l'armée française, de l'armée de l'air française, le déclare inapte au vol. Mais pourquoi inapte au vol? Parce qu'il faut se souvenir qu'en 1938, il a failli réaliser un raid qui était le raid New York-Terre de Feu, et son avion s'était écrasé au Guatemala. C'était un vrai crash. Il est resté dans le coma pendant 4 jours. Il est sorti de cet accident avec des vertèbres cervicales fracturées. Il avait eu beaucoup d'autres accidents d'avion tout au cours de sa carrière. Et donc, c'était son état physique qui a incité les médecins à refuser de le déclarer apte au vol. Alors ensuite, il s'est évidemment débrouillé. Il est allé voir les plus hautes autorités de l'armée. Il avait quand même quelques relations dans l'armée de l'air. Et on a accepté qu'il puisse voler. Et là, il a raconté d'ailleurs ce que certains ont appelé la drôle de guerre. Pour lui, ça n'a pas été une drôle de guerre. Hein. Il était dans cette escadrille La H, donc, qui est célébrissime dans l'histoire de l'aviation française. C'est là où il fait le fameux raid sur Arras, qui est publié d'ailleurs sous ce titre-là.
Flight to Arras,
et qui va s'appeler donc pilote de guerre, en fait. Hein. Et puis, c'est l'armistice. Et là, il va vouloir foncer en Espagne d'abord. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le bateau pour aller aux États-Unis parce qu'il ne veut pas se battre avec la France libre. Et ça, c'est un point très, très important pour la suite de l'histoire. On entre là dans les idées politiques de Saint-Exupéry. Pour lui, De Gaulle est un dictateur en herbe. Et c'est ce qui explique, si vous voulez, enfin, il y a deux choses qui expliquent le fait qu'il choisisse d'aller à New York. La première, c'est ce que je viens de dire. Et la deuxième, c'est qu'en 1939, il a publié Terre des Hommes. Terre des Hommes a eu le prix de l'Académie française en France, mais Terre des Hommes a eu le National Book Award, qui est le Goncourt américain, la même année. Donc son livre s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. C'est un écrivain connu et célèbre aux États-Unis. Et c'est ce qui explique qu'après s'être très courageusement battu, puisqu'il a fait 70 missions de guerre quand même, dans la Drôle de Guerre, aux commandes d'un avion de l'armée française, c'est ce qui explique qu'après, eh bien, il soit passé aux États-Unis. Et il faudra qu'il attende, lui, le débarquement allié en Afrique du Nord pour tenter une nouvelle fois de se battre pour la France.
Vous décrivez un peu son état d'esprit aux États-Unis, parce qu'il parle longtemps aux États-Unis. On sent à la fois, bon, c'est un personnage très complexe, mais on sent une mélancolie qui domine chez lui. Parce qu'il part notamment avec cette idée, au fond, que tous ses amis sont partis, et là, sont partis dans l'autre monde, parce
Bien
qu'ils
sûr.
Sont morts. Il y a vraiment cette mélancolie.
Oui, alors moi, ça ne me saute pas aux yeux, si vous voulez. Parce que, en fait, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La mélancolie, c'est quand on lit après Citadelle, qui est quand même un livre posthume, dont on a retrouvé des fragments importants. Certes, il y a près de 1000 pages, mais c'est un brouillon. Et on s'est beaucoup inspiré après de Citadelle pour dire oui, mais. Et c'est ce qui fera dire à un certain nombre de gens, il a dû se suicider, quand on y reviendra plus tard. Bon. Alors, moi, je ne le dirais pas nostalgique. Il sait que de toute façon, quand on pilote un avion et il est payé pour le savoir, on peut avoir un parce qu'il n'y a pas eu que le crash au Guatemala. Enfin, il y a eu le crash en Libye qui lui a donné d'ailleurs quelques années auparavant l'idée du Petit Prince. C'était le raid Paris-Saïgon, je crois. Donc, il sait que quand on prend les commandes d'un avion, surtout à cette époque-là, avec la qualité des moteurs de l'époque, on risque sa vie. Donc, il a de la nostalgie, évidemment, pour les grands aviateurs qui ont été ses copains, qui ont été pour certains ses maîtres, mais en même temps, ça fait partie de la mort fait partie de la vie. Donc je ne le sens pas, moi, dans cette mélancolie-là. Il n'a pas de mal de vivre. C'est vrai que c'est un type extrêmement cérébral, qui est extrêmement difficile à pénétrer, parce qu'il a une psychologie particulière. Il est capable à la fois de passer des heures et des heures à jouer aux échecs, à faire les plans d'un dispositif d'atterrissage automatique pour avion dont il va déposer le brevet. En même temps, il fait des tours de cartes. Il adore boire des coups. Il passe des nuits aussi à faire la fête et à déconner. Donc, c'est un homme complexe et c'est aussi un homme complet. Et quand il arrive aux États-Unis, il faut quand même se remettre dans le contexte effectivement de l'époque. On ne sait pas qui va gagner la guerre. Quand De Gaulle a fait son appel du 18 juin, la France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Lui, il écrit à ses copains: la France a perdu la guerre et c'est les Américains qui vont la gagner. Et je pense que, c'est très important à mon avis, parce que ça veut dire qu'il va là où, pour lui, en tout cas, selon sa propre analyse, il y a le salut.
Oui, alors vous écrivez, il est ainsi Antoine de Saint-Exupéry, mélange d'idéalisme, d'ombrageuse tristesse et d'impatience. Lorsque ses compagnons, la 233, le retrouvent, ils évoquent aussi son joyeux caractère. L'homme est vraiment complexe. Il revient en Europe, il vient en Amérique du Nord pour se battre. Il rencontre Giraud et là aussi, on sent une certaine déception sans vouloir tomber dans un pessimisme outrancier.
Oui, mais c'est parce qu'il a attendu. Alors, il n'a pas perdu son temps aux États-Unis. Il a quand même écrit Le Petit Prince, qui va être la première édition du Petit Prince, c'est l'éditeur Hitchcock de New York. Ensuite, il a fréquenté un certain nombre de Français exilés là-bas. Et puis, dès que l'Afrique du Nord est libérée par les Alliés, il dit « mais je veux en être, je veux y aller ». Mais pour ça, il faut un visa de la France libre. Or, évidemment, De Gaulle ne le porte pas dans son cœur. Donc le visa de la France libre, il l'a attendu d'ailleurs, il n'est jamais venu ce visa. Il a fallu qu'il attende plus de 8 mois aux États-Unis. Et comment il va se rendre sur le territoire de l'Afrique du Nord, dans un transport de troupes américains qui va prendre à San Francisco, il va se taper la traversée du Pacifique, où il va être malade comme un chien. Donc c'est là, on a l'image d'un homme qui est prêt à peu près à n'importe quoi pour retourner se battre. Alors, vous dites Giraud. Bien sûr, Giraud, c'est lui qui est en charge officiellement, donc le gouvernement provisoire en exil est dirigé par Giraud. Mais il va être très très rapidement co-dirigé par Giraud et De Gaulle. Et quand Giraud le voit débarquer dans son bureau, et cet homme qui lui dit « mais donnez-moi un avion, quoi, en gros, je veux me battre », bon, il lui dit « écoutez, vous êtes un écrivain, vous allez nous servir, vous allez faire ce qu'on appelait à l'époque, on ne disait pas communication, on disait la propagande ». Bon. Et donc voilà, alors vous allez faire des conférences pour le moral des troupes, et puis ça l'embête considérablement.
Pour ne pas dire autre chose.
Alors, et c'est pour ça qu'en même temps, il lâche pas Giraud.
Oui.
Parce qu'il sait que c'est par là qu'il pourra peut-être avoir le lien avec l'état-major américain sur place. C'est comme ça qu'il est intégré dans cette escadrille de 33. Mais vous savez que très rapidement, il fait une première mission avec ce fameux avion d'ailleurs, le Lockheed P-38, le Lightning. Il fait une première mission de 7 heures d'ailleurs, parce que c'est à peu près l'autonomie extrême de l'avion.
Et il a un accident.
Sur les côtes de France, mission réussie. Deuxième mission, panne moteur, il est obligé d'interrompre la mission. Il revient se poser, à l'époque c'était sur le terrain de Laghouat en Tunisie. Et là, il est quand même un peu distrait, il oublie de sortir les volets, il arrive très très vite sur la piste. Et comme disent les aviateurs, il s'avale la piste, il va finir vraiment au bout du bout du bout dans les oliviers. Et quand il revient au parking du terrain d'aviation, avec son aile, il accroche un bâtiment. Et à ce moment-là, l'armée américaine, qui ne rigole pas avec le règlement, le met à pied. C'est-à-dire qu'il ne peut plus voler. Et là encore, il va falloir qu'il attende plus de 8 mois pour revoler. Et c'est ce à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure dans votre introduction. C'est grâce à un télégramme envoyé par Eisenhower, le commandant suprême quand même de l'armée, qu'il va être réintégré. Et le contenu de ce télégramme est extraordinaire. Eisenhower dit, écoutez, laissez-le voler, il va nous emmerder moins en l'air qu'à terre. Voilà donc syntaxe. Alors, les rapports avec Giraud, je crois simplement que lui, il ne veut pas entrer dans le, comment dire, dans la politique du gouvernement provisoire d'Alger. Son but à ce moment-là, donnez-moi un avion, je veux me battre. Et pourquoi veut-il se battre? Alors ça, on en a la clé par sa correspondance privée. Il est sûr que les Alliés vont gagner la guerre. Il veut, après la guerre, être partie prenante du relèvement de la France. Il veut participer vraisemblablement d'ailleurs au gouvernement de la France. Mais il sait que le ticket d'entrée pour avoir voix au chapitre après la guerre, c'est de s'être battu pour la libération de la France. Et c'est pour ça qu'il insiste tellement. À 44 ans, comme vous dites, alors là, c'est un âge canonique, effectivement, pour être sur un avion comme celui-là, qui est un des avions les plus performants de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez qu'il ne peut pas se baisser pour ramasser son mouchoir. Tellement il est couturé. Quand il monte dans son avion, on vient lui fermer la verrière. Il est engoncé dans sa combinaison de vol. Il a la May West parce qu'il va survoler la flotte. Il ne peut plus bouger. Il est trop grand pour l'avion. Donc c'est extraordinaire. Et il le dit d'ailleurs dans des lettres. Il dit, mais qu'est-ce que je fais à 10 000 mètres d'altitude à 44 ans avec mes 6 000 heures de vol et tout ce que j'ai fait dans ma vie? Pourquoi je suis là? Eh bien, c'est parce qu'il faut que j'y sois. Voilà.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie et je reçois Jacques Pradel, auteur avec Luc Van Rel du livre Saint-Exupéry, L'ultime secret, paru aux éditions du Rocher. Nous nous retrouvons dans un instant.
Les Français sont râleurs, tricheurs, corrigent leurs interlocuteurs et résistent à la mondialisation. C'est ainsi que Christophe Campos nous livre les stéréotypes des Français du point de vue des Canadiens et Québécois. Une émission éclairage qui ne manque pas de caractère, à télécharger librement sur Canal Académie.
Nous reprenons le cours de notre émission consacrée au grand mystère Saint-Exupéry, au mystère de sa disparition. Et je reçois Jacques Pradel, auteur avec Luc Van Rel du livre Saint-Exupéry, L'ultime secret, paru aux éditions du Rocher. Alors, nous avons évoqué Jacques au cours de cette première partie, Saint-Exupéry et la guerre. Il part donc ce matin du 31 juillet 44. Et
c'est sa dixième mission.
C'est sa dixième mission et il ne revient pas. Alors, très vite, on entend toutes les spéculations. On pense d'abord au suicide.
Alors, d'abord, je ne sais pas, mais c'est vrai que malheureusement, beaucoup d'aviateurs disparaissent, y compris sur la base de Borgo, où il a passé ses dernières semaines. Évidemment, on se dit, mais ça n'aurait pas dû arriver, quelqu'un comme Saint-Exupéry. En même temps, on sait que cet avion est un avion qui a des pannes, et il y en a eu dans les missions de Saint-Ex, il y a eu une panne d'oxygène, il y a des pannes moteurs assez fréquentes. En même temps, tout le monde a confiance dans les qualités de pilote et de Saint-Ex et de ses camarades de vol dans cette escadrille, mais au bout de 7 heures, 14 heures, comme vous l'avez dit, il est porté disparu. Alors, la première hypothèse quand même, c'est l'hypothèse, j'appellerais ça une hypothèse économique, qui s'est révélée, grâce à notre enquête d'ailleurs, être la bonne. On a confirmé que c'était la bonne hypothèse. Il s'est fait descendre par un avion allemand. Bon. Sauf que, on ne le sait pas évidemment, le jour de sa disparition, ni le lendemain, ni le jour d'après. Vous savez que, en cas de disparition d'avion, d'abord il y avait souvent d'autres pilotes qui signalaient qu'ils avaient vu tel avion se faire descendre, etc. Donc là, c'était simple pour les rapports. Il y avait une coutume, et ça on a découvert ça au cours de notre enquête en parlant à des anciens pilotes de guerre, à la fois allemands et américains, puisqu'on a eu beaucoup de pilotes américains qui avaient piloté des Lightning. On a su que l'état-major allié, et l'état-major américain, on va dire, puisque là il s'agit de la base de Borgo, avait l'habitude de faire ce qu'on appelle des messages en l'air, c'est-à-dire en fait de faire une intervention sur la fréquence de la radio que les Allemands connaissaient bien et qu'ils surveillaient, pour dire, ben voilà, on a un avion qui n'est pas rentré. Est-ce qu'on peut nous dire ce qui s'est passé ? très souvent, ça c'est le côté, cette espèce de franc-maçonnerie, on va dire, ou de chevalerie plus exactement, des pilotes d'avion, eh ben, l'état-major allemand répondait et disait, bah oui, on a un avion qui est voilà, sur la défense de telle ville ou tel truc. Et là, il lance ses messages et il n'y a pas de réponse. Bon. Donc, interrogation. Et c'est dans les mois qui suivent, après il y a quand même toute la fin de la guerre, hein. on est qu'en 44, il y a le débarquement en Provence 15 jours plus tard, et après la guerre, elle se termine en avril 45. Donc il n'y a pas vraiment d'enquête jusqu'en avril 45 sur la disparition de Saint-Ex. Et c'est tout de suite après, effectivement, à la fin de la guerre, que à la fois on découvre dans les affaires de Saint-Exupéry le manuscrit de 1000 pages qui va donner lieu à la Citadelle. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a des pages très amères. Et c'est vrai qu'il y a ces phrases que tout le monde connaît maintenant. « J'étais fait pour être jardinier ». Bon, alors là, on parle de découragement, on parle de tristesse. Et on se dit, ce type, il s'est foutu en l'air. Alors, comment il s'est foutu en l'air? Peut-être c'est la façon la plus noble qui soit pour un aviateur. Bon, on est sur un avion qui marche à 700 km/h. Hein, on appuie un peu sur le manche. Et puis on disparaît. Et ça a été donc la première supposition. Il y en a une autre qui était beaucoup plus mal intentionnée.
Ralliement à Vichy.
C'est le ralliement à Vichy. On a dit, oh, il s'est posé à Vichy près de son ami le maréchal Pétain, parce que c'est vrai aussi que c'était réciproque, hein, l'antagonisme entre Saint-Ex et les gaullistes. Après, on a dit, il s'est posé en Suisse et il a fini sa vie dans un monastère. Bon. Et puis, je sais plus. Et puis, si, l'autre hypothèse, évidemment, il a eu une panne. Il a eu une panne. Ça, c'est la fatalité. C'était à peu près les quatre hypothèses. Et la guerre s'étant terminée, il y a eu une enquête de l'armée française quand même, mais qui n'a pas permis de recueillir des témoignages. Et les archives allemandes qui ont été analysées après la guerre, d'abord étaient très fragmentaires. La plupart ont disparu dans les incendies du ministère de la guerre à Berlin. Et puis voilà. Et puis petit à petit, le mystère s'est épaissi au fur et à mesure qu'on se désintéressait un petit peu des raisons de la disparition de Saint-Ex.
Alors il faut attendre un demi-siècle pour arriver, j'allais dire, au personnage majeur de votre ouvrage, à savoir Luc Van Rel, comment Bianco qui a trouvé la gourmette. Oui. Mais entre-temps, il y a eu toute une série, j'allais dire, de chercheurs qui ont souhaité expliquer en gros le combat ou pas combat.
Ah oui, on l'a cherché partout. L'avion, on l'a cherché. On a dit qu'il s'était crashé dans les Alpes, ce qui était assez logique, hein, d'ailleurs, puisque c'était sa mission, c'était la vallée du Rhône, survoler donc Lyon, Grenoble, Annecy et revenir forcément par les Alpes. On l'a cherché dans les gorges du Verdon. Et puis alors, on l'a cherché longtemps dans la baie des Anges. Mais là, c'est à la suite d'une supercherie quand même. Supercherie, qui date de 1972 de mémoire. Ça a été un vrai coup de théâtre, puisqu'on est toujours dans le mystère. Et 1972, une petite revue allemande de nostalgiques de la dernière guerre mondiale, quand même, qui aime bien revoir les photos de l'époque, tout ça, c'était le bon temps, quand on envahissait la France et quand on faisait la guerre. Et là, il y a un article qui paraît dans cette revue dont le titre traduit en français donne le troufion. Et cet article dit ceci, il est signé par un monsieur qui dit « J'étais pilote pendant la guerre moi-même, et puis en septembre 1944, j'ai reçu la lettre d'un de mes amis qui s'appelait Eichele, qui était un pilote. Et Eichele me dit dans cette lettre que, voilà, un jour, il y a eu une alerte chasse, il est parti avec un de ses ailiers, ils étaient sur un des avions les plus performants de l'Allemagne à l'époque, le Dora, le Messerschmitt Dora, bon. Et puis là, sur la baie des Anges, ils ont été attaqués par un Lightning P-38 d'observation et suivaient donc la description du combat aérien, soi-disant sorti de la lettre en question. Quand on a demandé à ce monsieur où était passée la lettre, il a dit « Ah ben, c'est dommage, je l'ai perdu dans un déménagement. » Bon, « Ah bon, ben, on va retrouver le pilote Eichele. » Ah non, il est mort pendant qu'il essayait de remonter par la vallée du Rhône vers l'Allemagne. Donc en fait, il n'y avait aucune preuve tangible de tout ça, sauf que tout le monde y a cru. Et qu'on a donc engagé des recherches, vraiment les seules recherches réelles qui ont été engagées, c'est dans les années, à la fin des années 70, début 80, sponsorisées par une marque de champagne qui a dépensé quand même beaucoup d'argent, avec l'aide de l'Ifremer, de la Comex, enfin la grosse artillerie si vous voulez. Et ils ont cherché pendant des mois un avion qui ne pouvait pas être à l'endroit où ils cherchaient. J'ai tenu, moi, à décortiquer ce témoignage, d'abord pour montrer comment on a envie qu'on nous raconte l'histoire qu'on a dans la tête, quoi. Et on en perd un peu nos capacités d'analyse toutes simples, quoi. Qu'est-ce qu'il dit dans ce témoignage, dans cette supposée lettre? Il dit, voilà, on est arrivé sur la baie des Anges, et puis là, on a vu un avion d'observation à 10 000 mètres, un Lightning, très reconnaissable, hein, puisqu'il avait deux queues, deux empennages arrière. Et alors là, il nous a attaqués. Mais on oublie complètement qu'un avion d'observation n'est pas armé.
Il est armé d'appareils photo.
Alors pour le coup, là, ben oui, pour le coup, là, ça serait un vrai suicide pour un pilote tout seul sur un avion non armé de foncer sur deux chasseurs allemands les plus performants de la guerre. C'est une histoire de fou, quoi. C'est pas possible. Après ça, il explique que, alors voilà, j'ai tiré, puis alors il a essayé de nous échapper en faisant une chandelle. Alors, vous demandez à n'importe quel pilote de chasse, la seule chance qu'un pilote ait d'échapper à ses poursuivants, c'est de foncer vers le sol et de se confondre avec le relief. Et certainement pas en leur faisant une cible idéale, en montant, en grimpant aux arbres, quoi. Enfin, en grimpant aux nuages, si vous voulez. Donc voilà. Alors, pardonnez-moi d'être un peu long là-dessus, mais c'était très important. Parce que nous, quand, je dis nous, mais quand Luc Van Rel a commencé à dire « Mais moi, j'ai la preuve maintenant que les débris d'avion que j'ai trouvés au pied de l'île de Riou sont les débris de l'avion de Saint-Ex », tout le monde a hurlé à la falsification en disant « Mais c'est pas possible, on sait très bien qu'il est tombé dans la baie des Anges ». Donc j'ai voulu vraiment mettre ça quand même un peu en exergue dans le livre pour qu'on comprenne qu'il faut chercher, quoi. Il faut pas se laisser aveugler par des certitudes prématurées.
Alors justement, ce personnage, Luc Van Rel, je disais dans mon introduction qu'il y a le hasard qui joue, il y a le hasard qui a joué sur la Gourmette.
Bien sûr.
Extraordinaire histoire d'un pêcheur qui, oui, avec son équipe, rapporte cet objet, qui a mis un temps fou à être connu, même par la famille, alors que maintenant, le découvreur est décoré de la Légion d'honneur.
C'était il y a 15 jours ou 3 semaines.
Voilà, oui, c'était... Et donc, il y a ça, et il y a ce Luc Van Rel qui fait ses recherches et qui voit des débris d'avion, mais sur le moment, il ne sait pas à quoi il a affaire, il faut attendre bien plus longtemps.
Oui, alors si vous voulez, je vais vous remettre le truc dans l'ordre. Dans l'ordre, on a un monsieur qui s'appelle Luc Van Rel, qui est un type extraordinaire, vraiment, j'ai appris à le connaître depuis, plongeur professionnel. Pour passer ses brevets successifs de plongeur professionnel, il a besoin de faire des photos et des vidéos sous-marines. Son père, qui est aussi plongeur historique à Marseille, lui dit, ben tiens, puisque tu cherches un terrain de jeu, moi, par 85 mètres de fond, il y a 20 ans, j'ai vu des débris d'avion. Ils sont à tel endroit, etc. Donc Luc, et ça c'est bien avant la découverte de la Gourmette. Donc, il plonge,
c'est l'acte,
il voit des morceaux, ouais, il photographie, il fait des vidéos, mais il pense pas du tout, évidemment, à l'avion de Saint-Ex. Et puis, arrive 1997-98, Jean-Claude Bianco, avec son chalutier L'Horizon, sort dans ses filets de pêche une espèce de magma, de concrétion marine, etc. Mais il y a un petit truc qui brille, il va voir, il gratte un peu, c'est la Gourmette de Saint-Exupéry. Et où est-ce qu'il pêche la Gourmette, si vous me passez l'expression? Exactement à quelques encablures, on va dire, de l'endroit où Luc, lui, a l'habitude de plonger depuis plusieurs années sur ces fameux débris d'avion. Et c'est là qu'il percute, en se disant, mais alors, peut-être que ces débris d'avion seraient les débris de l'avion de Saint-Ex. Et c'est le vrai début de toutes les investigations de Luc Van Rel, qui... D'abord, vous savez que les débris, parce que les gens ont quelquefois tendance à penser qu'une épave d'avion à 85 mètres de fond, c'est un bel avion avec les ailes, les moteurs, etc., impeccable, intact, posé sur le sol. Pas du tout, là c'est un sol d'abord très accidenté, de rochers, c'est l'accident de Sharm el-Cheikh. C'est-à-dire qu'il y a des débris d'avion sur près d'un kilomètre et, oui, sur 400 mètres de large. Oui, et, oui, la plus grosse pièce, elle fait 150 kilos, que Luc va trouver. Et heureusement qu'il l'a trouvé, parce que ça a été un peu le juge de paix de l'histoire. C'était cette jante de train d'atterrissage de P-38. Qui était de section rectangulaire, oui, alors qu'on savait que sur les avions précédents, la section était circulaire. Donc ça a été le vrai juge de paix, parce qu'en trouvant cet objet-là, il savait que ça pouvait correspondre au type de l'avion que pilotait Saint-Exupéry. Et après, on a trouvé, effectivement, mais après avoir sorti les morceaux de l'eau, dans un petit bout d'empennage arrière, ce fameux numéro d'ordre.
Il faut rendre hommage à ce personnage, parce que c'est à la fois un plongeur professionnel, et Dieu sait si plonger à 80 mètres, ça représente pas grand-chose pour une personne qui fait un 100 mètres, comme on peut le voir à la télévision, mais en plongée sous-marine, il y a des risques, etc. C'est un personnage qui est passionné d'histoire, qui
Il
est archéologue.
Oui, c'est ça, ça a compté beaucoup.
Il a travaillé sur la grotte de Kosker.
Absolument.
Voilà. Ouais. Et là, il recherche Grassonnette. Et grâce à ce plan, d'ailleurs, vous le montrez en photo du Lightning P38, où il cherche.
Même sur des maquettes. Mm. C'est que c'est sur une petite maquette d'aéromodéliste qu'il a trouvé un jour en l'étudiant le soir, comme ça. Il regarde cette maquette d'avion et il voit que l'entrée du compresseur, du turbocompresseur, est légèrement différent de la forme qu'il a sur d'autres maquettes d'avions antérieurs. C'est là-dessus qu'il trouve. Et il se dit, mais cette pièce, je l'ai vue, elle est en bas. Il refonce à 85 mètres et là, alors pour le coup, il est sûr à 100% que c'est l'avion de Saint-Exupéry. Il n'y avait même pas besoin, si vous voulez, pour lui, de trouver le numéro, le fameux numéro d'usine. Mmh. Bon, donc ça montre que c'est quelqu'un de méticuleux. En même temps, j'ai cité son nom très rapidement tout à l'heure, mais il faut vraiment lui rendre hommage, c'est Philippe Castellano, Aérorelique, l'association, oui, oui. Parce qu'il a des contacts dans le monde entier. C'est lui qui nous a mis en contact avec les usines Lockheed aux États-Unis. C'est lui qui nous a mis en contact avec un certain Jack Curtis, qui malheureusement est décédé depuis, qui a été d'une aide très très importante dans la réflexion sur l'analyse des débris. Parce que Jack Curtis était le pilote d'essai des usines Lockheed. C'est lui qui avait mis au point le Lightning P-38. Donc s'il y avait un homme au monde qui pouvait répondre comme ça sur un coup de fil ou sur un petit mail envoyé à 3h du matin, dis donc Jack, est-ce que vraiment on a l'impression que le compresseur, est-ce qu'il ne fait pas un coude? Et il répondait 3h après, absolument, si vous avez un coude, c'est que c'est la bonne pièce, etc. Vous voyez. Et qui a remonté d'ailleurs le moral de Luc, on en parlait un petit peu, parce qu'à un moment, Luc, il a baissé les bras, quoi. Il s'est dit, je me suis trompé, quoi.
Mais c'est aussi ce qu'on ressent à travers la lecture de votre ouvrage, c'est qu'on ne va pas dire 100 fois, mais 10 fois, ouais. Une bonne dizaine de fois, l'aventure aurait pu tourner court.
Absolument.
Notamment à cause des lenteurs administratives.
Ah, aussi des lenteurs administratives, mais ça, on n'y peut rien. Hein. Mm. Il faut vivre avec. Hein.
Oui, mais c'est il faut 3 ans. Il faut 3 ans pour revenir. Parce qu'à un moment, il est interdit de plonger sur le lieu.
Alors, voilà. Mm. C'est-à-dire que, comme Luc est archéologue, il respecte. Il ne touche pas sans réfléchir. Bon. Ça fait partie des débris d'avions supposés être de Saint-Ex, ça fait partie du patrimoine, évidemment, français. Ça fait partie de l'histoire de l'aviation. Donc, lui ne touche pas aux débris. Quand il remonte, il va au DRASM, la direction de l'archéologie sous-marine, et il va déclarer cette épave, en disant, voilà, j'ai trouvé une épave, elle est à tel endroit, je demande une autorisation de remonter les morceaux. Ça va mettre effectivement 3 ans. Bon. Par contre, ça met un petit peu moins de temps parce que Henri-Germain Delauze, le patron de la Comex, va un jour prendre le mort aux dents. C'est quand même quelqu'un de très connu dans la région. Il va dire, bon, l'autorisation, elle va venir après, c'est pas grave, j'y vais avec mes bateaux et il faut remonter ces pièces avant qu'elles ne disparaissent. Parce que c'était ça, le danger. Le danger, c'était qu'un autre chalutier passe et emmène les débris, qui étaient peut-être des pièces exceptionnelles, dans une fosse à 800 mètres de fond. Hein. Donc, il y avait ce côté un peu course contre la montre, comment préserver ces débris. Après, c'est vrai que les héritiers de Saint-Exupéry, alors étaient-ils fondés ou pas, je ne veux pas entrer dans le débat, mais on dit, attention, on ne touche pas à ces débris, c'est une violation de sépulture. Bon, je pense qu'ils avaient dit ça pour ils ne nous connaissaient pas, ni Luc ni moi. On a eu l'occasion de se rencontrer après la publication du livre, et notamment avec Olivier Daguet, qui est un homme vraiment que je respecte infiniment, parce que autant ils ont pu avoir une mauvaise opinion de nous pendant qu'on faisait l'enquête, autant Olivier Daguet a reconnu, après publication et vérification, parce que la famille a vérifié aussi une partie de notre enquête sur l'Allemagne, notamment, mais il a eu l'honnêteté de dire, voilà, c'était des gens bien. Ils ont pensé à un moment, et moi je les comprends, qu'on était 2 journalistes un peu avides de petite gloire, et qu'on allait s'abriter derrière la grande gloire de Saint-Exupéry pour se faire mousser. Quoi.
Alors que vous n'avez pas besoin de ça.
Non, mais on n'aurait pas été les premiers. Donc voilà. Donc, bon. Alors maintenant, tout ça est aplani et calme, mais c'est vrai, vous avez raison, il faut des nerfs d'acier. Quoi. Et puis alors, mettez-vous à la place de Luc, le jour où, sous la dernière pièce qu'on peut remonter de l'avion de Saint-Ex, qui est incontestablement une pièce de P-38 pour lui, il trouve un débris de moteur de Messerschmitt. Je me suis mis le doigt dans l'œil, quoi. Peut-être que tout ça, c'est un avion allemand. On a rêvé, on a pris. Et là, il est mais cassé en morceaux, le pauvre Luc.
Oui.
Et c'est Jack Curtis qui va dire, mais non, il n'y a pas, c'est pas possible, renseigne-toi. Un avion allemand, ça ne ressemble pas aux pièces que tu m'as montrées. Et c'est Jack qui lui dit, il doit y avoir 2 avions. Et ça a été comme ça, incessant, pendant les près de 10 ans qu'a duré l'enquête, c'est les 6 ans de Luc plus les 4 ans de ma participation, ça n'a pas arrêté, les portes se fermaient, mais miraculeusement, quelqu'un nous a porté la clé le lendemain.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois Jacques Pradel, auteur avec Luc Van Rel, du livre Saint-Exupéry, l'ultime secret. Nous nous retrouvons après cette deuxième pause.
Canal Academy vous propose d'entendre Valéry Giscard d'Estaing présenter les archives de son septennat de 1974 à 1981. Écoutez l'ancien président expliquer comment les archives de la présidence sont non pas des documents privés, mais des archives nationales, une source majeure pour les études en histoire contemporaine. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademy.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée au mystère Saint-Exupéry, enquête sur une disparition. Saint-Exupéry, l'ultime secret, c'est le titre de votre ouvrage, Jacques Pradel, un ouvrage coécrit avec Luc Vanrel, paru aux éditions du Rocher. Alors nous avons relaté à la fois cette vie de Saint-Ex pendant la guerre, puis ensuite les différentes hypothèses qu'il y a pu y avoir autour de sa mort. Au fond, nous avons trouvé l'épave. Qu'est-ce qui a amené à la conclusion qu'il s'agissait d'une épave qui était au fond de l'eau à la suite d'un combat.
Les débris allemands. Alors ça, c'est encore un coup de chance incroyable. C'est-à-dire que après avoir pensé d'abord que c'était simplement deux avions, un combat aérien qui avait eu lieu le 31 juillet 44, les deux avions s'étant percutés, on les aurait retrouvés au même endroit. Ça, c'est une hypothèse qui va tenir pour nous pendant 3-4 semaines. Au bout de 3-4 semaines, effectivement, c'est là que j'interviens dans l'histoire, on commence à consulter les archives qui restent allemandes et grâce à Lino von Gartzen, dont on n'a pas parlé, qui est un membre de notre équipe et qui est lui aussi plongeur, archéologue et allemand, on trouve miraculeusement l'explication de la présence de cet appareil allemand. C'est bien un Messerschmitt, sauf qu'il s'est crashé au début du mois de décembre 1943, c'est-à-dire 8 mois avant que, par hasard, l'avion de Saint-Ex vienne percuter la mer au même endroit. On retrouve le contexte de l'histoire, l'attaque de Marseille par une escadrille de bombardiers américains. À ce moment-là, toute la chasse allemande part en l'air pour défendre, évidemment, pour se défendre contre cette attaque. Et parmi les aviateurs allemands qui décollent, il y a un instructeur avec des bleus, avec deux bleus. Sur 4 équipiers, il y a 2 bleus. C'est-à-dire que sont des jeunes gens, ils ont à peine 20 ans, ils viennent d'avoir leur brevet de pilote de chasse et c'est la première fois qu'ils vont se trouver en opération, ils n'auraient pas dû y être. Il y a eu une faute de l'instructeur. Et l'instructeur lui dit, je vais vous montrer comment on attaque des avions. Donc ce que je fais, vous le faites. Je fais un passage, vous passez derrière moi. Sauf que quand l'instructeur fait son passage, ses armes s'enrayent, il dégage et l'avion qui est derrière, c'est l'avion d'un certain von Bentheim qui est d'une famille noble, apparentée à toutes les cours d'Europe, qui va prendre les balles du mitrailleur du bombardier américain et il va tomber à la mer et il va tomber exactement à l'endroit où nous l'avons trouvé. Alors on a les circonstances, la date et le nom du pilote. On sait aussi que ça n'a aucun rapport avec Saint-Exupéry, donc on aurait pu s'arrêter là. Et c'est à ce moment-là que on dit à Lino von Gartzen en Allemagne, on dit, dis donc, von Bentheim, est-ce que ça te dit quelque chose? Il nous rappelle tout de suite en disant, mais attendez, c'est un nom, c'est comme si vous disiez, en France, c'est le fils du comte de Paris, quoi. Donc, c'est vraiment très important. Il dit, oui, mais c'est pas lié. Il dit, non, mais je vais m'enseigner pour voir s'il y a de la famille, parce que, de toute façon, c'est une nouvelle importante pour la famille. C'est vrai. Et à la recherche, il trouve, évidemment, ouais. Il y a une famille von Bentheim, et le frère Alexis, le frère cadet de celui qui est mort, est encore vivant, donc le frère cadet est vivant. Il est bouleversé évidemment par la nouvelle parce que la famille ne savait pas ce qu'était devenu leur fils. Et à ce moment-là, Lino demande à Alexis von Bentheim, est-ce qu'il n'y aurait pas encore des associations de pilotes de la guerre? Si, bien sûr, il y en a, des pilotes de chasse. Je suis en contact avec eux, évidemment. Lui aussi est un ancien pilote de chasse. Et si on n'avait pas eu ce sésame, jamais ces aviateurs, qui sont tous très âgés, entre 80 et 90 ans, jamais ils ne nous auraient reçus. Ils nous ont reçus, ils ont accepté de discuter avec nous pour deux raisons. Un, parce qu'on leur parlait de von Bentheim, qui est une famille très connue. Et deux, parce qu'ils avaient le sentiment de pouvoir participer à la solution d'un mystère de l'histoire. Mais quand on leur parlait de Saint-Exupéry,
Chape de plomb,
les expressions changeaient et Lino nous disait à chaque fois qu'il avait un rendez-vous, on est parti sur 135 noms de pilotes et par élimination successive, on a retenu 5.
C'est là où il y a le travail de ce fameux Lino qui a été extraordinaire.
Formidable, parce que c'est les 5 qui étaient dans un rayon de 30 km autour du terrain de Marseille, Marignane, des bases très très proches. Et le 5, et alors à chaque fois qu'il dit « mais qu'est-ce que vous faisiez le 31 juillet 44 ?» Et là, l'expression change. Et Lino nous dit, j'ai l'impression qu'il y a une loi du silence, il y a un truc bizarre. Et le cinquième nous dit, où le quatrième nous dit « Écoutez, moi, je ne peux rien vous dire. Mais peut-être que si vous appelez de ma part, et il met sur un petit bout de papier Monsieur Horst Rippert avec son numéro de téléphone, appelez-le, s'il a envie de vous dire quelque chose, il vous dira quelque chose. » Et Lino appelle, et là, Rippert lui dit « Écoutez, cherchez plus, c'est moi. Le 31 juillet 44, j'ai abattu l'avion de Saint-Exupéry. » Parce qu'il savait depuis 2 ans, vous savez qu'on a sorti donc les morceaux en 2003. En 2004, ça a fait le tour du monde, l'annonce que c'était vraiment les débris de l'avion de Saint-Ex. Donc, M. Rippert avait vu sur sa propre télévision, en Allemagne, 2 ans avant qu'on arrive chez lui, toute cette histoire lui était remontée à la mémoire. Et Lino était la bonne personne au bon moment.
Il y a une rencontre, évidemment, de ce personnage. Comment se passe cette rencontre ?
Alors, très mal. Très mal dans la mesure où d'abord on tombe sur un homme qui est très ému encore de tout ça, 64 ans après. Il porte le poids d'une culpabilité énorme parce que, évidemment, involontairement, il a abattu non seulement un des écrivains les plus connus au monde et un des plus grands pilotes de la Deuxième Guerre mondiale, mais il a abattu également son idole. Parce qu'il faut savoir que Rippert est devenu pilote juste avant la guerre, la Deuxième Guerre, parce qu'il avait lu Vol de nuit. Et Vol de nuit a été effectivement édité en Allemagne en 1936, traduit en allemand en 1936. Donc, il a tué l'homme qui lui avait donné le virus de l'aviation. Donc, Rippert est écrasé par le poids de tout ça. Il a tenu le silence pendant 64 ans, je vous expliquerai pourquoi. Et il dit, moi, je veux bien vous dire quelque chose, mais à ce moment-là, on met tout ça chez mon notaire et vous rendrez tout ça public après ma mort. Alors on lui dit, oui, mais enfin, nous, il nous faut une preuve, parce qu'on va penser qu'on est nous-mêmes des charlatans. Alors, il nous envoie, je crois qu'on a mis la reproduction, il nous envoie, je sous-signé, Horst Rippert, le 31 juillet 44, à telle heure, en vol entre Toulon et Marseille, j'ai abattu, il dit pas j'ai abattu Saint-Ex, il dit j'ai abattu un Lightning P-38. Et débrouillez-vous avec ça. Bon. Alors après, on va revenir à la charge, on va nous-mêmes enquêter sur lui. Parce que, certes, beaucoup d'archives allemandes ont disparu. Certes, on n'a pas trouvé l'enregistrement de cette victoire pour des raisons qu'on a comprises et qu'on explique dans le livre. Mais Rippert, il a, je ne sais plus, une trentaine de victoires pendant la guerre. Il va se battre jusque début avril 1945 dans la Luftwaffe. On découvre aussi qu'il est, alors je dis vraisemblablement d'origine juive. Il est d'origine juive. Sa mère est une juive russe qui a émigré de Russie en fuyant les pogroms. Elle s'est mariée avec un noble allemand. Rippert, pour des raisons qui lui appartiennent, préfère dire « ma famille était d'une grande famille d'Europe de l'Est, de musiciens ». Toujours est-il qu'on a eu la preuve que quand il a été incorporé dans la Luftwaffe, il n'a pas pu satisfaire aux... Vous savez qu'il y avait les lois raciales qui s'appliquaient à l'ensemble de l'Allemagne et à tous les citoyens allemands. Il n'a pas pu prouver l'aryanité de ses grands-parents, et pour cause. Bon. Alors à ce moment-là, mais c'était un pilote de grand talent. Donc à ce moment-là, il y a toujours des accommodements avec les lois. Il est incorporé, il est un peu le canard boiteux de son escadrille. La Gestapo veut l'envoyer se faire tuer sur le front de l'Est. Il est récupéré par son supérieur hiérarchique pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la morale, mais simplement parce que c'est un as de l'aviation. Mais toute la guerre, il va être quand même celui qu'on monte du doigt, celui avec qui il n'est pas de bon ton de se faire voir par... Parce qu'il y a, de la même façon que dans les armées soviétiques, il y avait des commissaires du peuple, dans toutes les unités de l'armée allemande, il y a les gens de la Gestapo. Et personne... Bon. Donc ce type va avoir cette espèce de difficulté quoi, de vie. Alors un jour, il déclare une victoire, il est le seul témoin. On l'envoie quand même au trou pour faux témoignage, avant de revenir là-dessus. Et bon, en même temps, il est décoré par Göring. Donc, si vous voulez, c'est une raison supplémentaire pour laquelle il n'a pas trop voulu qu'on parle de lui après la guerre, parce qu'il a souffert pendant cette période-là, déjà de tout ce que je viens de vous dire. Et puis en même temps, en plus, alors la cerise sur le gâteau, il a abat Saint-Exupéry. Et nous avons vérifié aussi, il n'a plus jamais touché un avion après la guerre. Il n'a plus jamais piloté un avion après la guerre. Il est devenu journaliste. Comme il était fanat de sport, il a créé la deuxième chaîne de télévision allemande du sport. Il a été dans le comité des Jeux Olympiques d'hiver allemands. Donc il est devenu, en quelque sorte, un personnage public. Et alors, la dernière explication de ce long, long silence, et ça on a peut-être un peu de mal à le comprendre, nous, vu du côté de la France, c'est que la guerre est aussi un traumatisme pour les Allemands. Elle l'est pour nous, mais elle l'a été pour les Allemands. Or, en Allemagne, vous n'avez pas des dizaines et des dizaines de livres qui sortent sur des documents, qu'est-ce que j'ai fait pendant la guerre. Non, les Allemands ne veulent pas parler de ce qu'ils ont fait pendant la guerre, même quand ils n'ont rien à se reprocher, parce que simplement, ils se disent, on va encore penser qu'on était des nazis. Or, lui, bon, est vraiment pas suspect d'avoir été un nazi. C'est von Bentheim qui nous a dit ça. Alexis von Bentheim qui nous a dit « Mais je suis content que vous racontiez l'histoire de mon frère. Il faut que les gens sachent que nous étions des pilotes et nous n'étions pas des nazis. » Et donc, tout ça, c'est ce qu'il y a dans la tête de M. Rippert. Et il voulait la tranquillité, quoi. Alors, moi, je ne regrette pas quand même de l'avoir convaincu à parler. C'est-à-dire qu'on lui a fait des pressions amicales par la suite pour lui dire « Mais écoutez, on vous comprend, c'est votre histoire avec un petit H, mais c'est quand même l'histoire avec un grand H. Donc, vous vous devez quand même de parler et d'expliquer ce que vous avez fait. » Voilà. Et il a fini par se rendre à nos raisons.
Vous avez une motivation au fond profonde. On évoquait tout à l'heure le fait que la famille était réticente. On sait que la Provence a titré « Laissez dormir Saint-Ex en paix », etc. Vous terminez votre ouvrage, Jacques Pradel, sur des mots qui sont magnifiques.
C'est le poème de la maman de Saint-Ex.
Voilà. Et vous dédiez donc au fond cette enquête à sa mère.
Ouais. Oui, parce que là encore, quand on s'interrogeait sur les raisons de sa disparition, il y avait des tas de gens qui disaient « Mais il faut arrêter de chercher, laisser Saint-Ex dans sa légende, laissez-le habiter sa légende. » Et d'ailleurs, même sa mère ne voulait pas qu'on touche à cette légende. Or, ce poème dit exactement le contraire. Moi, je l'ai lu au cours de mes recherches. Je me suis évidemment documenté sur toute la vie de Saint-Ex, etc. Je suis tombé sur ce poème de cette femme et je me suis dit, c'est le point d'orgue et le point final de ce livre. Elle dit « Au matin de résurrection, agenouillée en oraison, je redirai votre prière, Madeleine, auprès de la pierre, au jardin de Gethsémani. Seigneur, où l'avez-vous mis ?» Pense à Saint-Ex, bien sûr. Partout, je cherche mon enfant. Au jour de mon enfantement, j'ai crié pour le mettre au monde et je crie encore aujourd'hui quand je ne sais plus rien de lui, plus rien, même pas une tombe. Je crois que c'est une réponse claire. Hein.
Eh bien, merci beaucoup, Jacques Pradel, d'être venu au micro de Canal Académie donc pour nous présenter cette extraordinaire enquête, une aventure humaine extraordinaire, et ce livre donc co-signé avec Luc Vanrel, Saint-Exupéry, l'ultime secret, enquête sur une disparition, préfacé par Alain Decaux de l'Académie française, un ouvrage paru aux éditions du Rocher. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.